Bonjour, bienvenue, il est 9h à Paris, 8h en temps universel, merci d'être avec nous. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité. Dans 30 minutes, la dernière édition d'Afrique Matin, suivie comme tous les vendredis de votre libre antenne. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Juan Gomez. Et on vous retrouve donc dans 10 minutes pour rappel sur l'actualité. Mais pour l'heure, les titres de l'actualité internationale. Victoire politique en Israël pour Benjamin Netanyahou, qui obtient le limogeage du chef du Shin Bet. Les services de renseignement dans le pays. Ronen Bar démit ses fonctions. Décision prise à l'unanimité par le gouvernement israélien. Le ministère de l'éducation américain risque de disparaître après 46 ans d'existence. Donald Trump poursuit sa charge et ses coupes budgétaires face à une administration qu'il estime beaucoup trop progressiste. Le CIO qui fait peau neuve et change de visage. Le comité international olympique adoube Kirsty Coventry, ancienne gloire de la natation, la Zimbabwéenne de 41 ans, toute première femme à diriger l'institution en 131 ans d'existence. Enfin, direction Babel, direction Marseille. En fin de journal, Olivier Roger nous emmène au salon Babel XP Music, un petit tour du monde de l'industrie musicale. Le patron du renseignement intérieur israélien, remercié par le gouvernement, Ronen Bar, ennemi numéro 1 du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui était entré en poste en 2021, qui avait multiplié les enquêtes contre le pouvoir. Ronen Bar, patron du Shin Bet, remercié par le gouvernement à la demande de Benjamin Netanyahou. Justement, son limogeage a été décidé à l'unanimité. Il doit être remplacé dans les 3 semaines à venir, Michel Paul.
Au plus tard, le 10 avril, c'est la date limite fixée par le gouvernement israélien pour l'éviction de Ronen Bar, et c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un directeur du Shin Bet, le service de sécurité intérieure, est limogé. La raison officielle invoquée, ne pas avoir rempli son devoir le 7 octobre 2023 pour éviter le pire fiasco qu'ait connu Israël, nommément ne pas avoir rendu compte au Premier ministre en temps voulu. Benjamin Netanyahou a fait état d'un manque de confiance dans ses relations avec le chef du Shin Bet. Ce dernier a préféré ne pas participer à la réunion du gouvernement qui a duré plus de 3 heures. Il a envoyé une lettre adressée au ministre dans laquelle il accuse Netanyahou de représenter une menace pour la sécurité nationale, notamment en entravant des enquêtes sur les liens de plusieurs de ses proches collaborateurs avec le Qatar. Ronen Bar affirme également que le Premier ministre israélien a nui aux négociations sur la libération des otages en le retirant lui et le chef du Mossad de la tête de l'équipe de négociateurs. Et dimanche prochain, le gouvernement doit entamer une procédure d'éviction, cette fois contre la procureure générale de l'État. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et ce matin, une ONG et un parti israélien annoncent avoir déposé un recours devant la Cour suprême israélienne pour contester l'éviction de Ronen Bar. L'armée israélienne, qui poursuit par ailleurs son opération au sol dans le sud de la bande de Gaza, et le président israélien Isaac Herzog s'est dit troublé par la reprise des combats, l'une des très rares critiques émises de sa part contre la politique de Benjamin Netanyahou. Selon la défense civile de Gaza, au moins 504 personnes sont mortes depuis la reprise des frappes israéliennes ce mardi. Direction les États-Unis, et Donald Trump persiste et signe un nouveau décret qui enterre le ministère de l'Éducation, ministère démantelé par le président après un premier décret prévoyant de réduire les effectifs de moitié. En voici un deuxième qui prévoit la fin pure et simple des activités de l'agence fédérale créée en 1979. Donald Trump qui tient là une promesse de campagne, l'éducation qui sera à présent à 100% une prérogative des États fédérés. La décision doit être validée par le Congrès, une nouvelle coupe budgétaire aux très lourdes conséquences, notamment pour les élèves en difficulté confrontés à des troubles de l'apprentissage. C'est ce qu'estime Laurie Béraud, maître de conférence spécialiste des États-Unis.
Dans la Constitution, l'idée que l'éducation ne relève pas du fédéral et que l'État fédéral a fait dans l'ingérence jusqu'à maintenant, d'un point de vue conservateur, c'est un juste retour à ce qui devrait être. Mais évidemment, ça suscite énormément d'inquiétudes sur place, puisque voilà, dans les cas où un État aurait des directives qui seraient discriminatoires notamment, on perd là l'espèce de gendarme, si vous voulez, qui s'assurait qu'il n'y avait pas de dérapage. Quand on pense diversité, équité, inclusion aux États-Unis, on pense tout de suite aux politiques raciales, mais ça peut être des questions d'accessibilité aux bâtiments, de s'assurer qu'il y a possibilité pour un élève en fauteuil roulant d'accéder à un établissement public dans un périmètre raisonnable. Donc ça ne se limite pas aux questions de diversité raciale.
Des propos recueillis par Aurore Lartigue. RFI 10h05 à Khartoum, la capitale soudanaise, où l'armée annonce avoir repris le palais présidentiel aux mains des paramilitaires qu'il occupait depuis 2 ans, soit depuis le début de la guerre civile, qui oppose le chef de l'armée, le général Al-Bourhan, à Emeti, son ancien adjoint et commandant des FSR, un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué la plus grande crise alimentaire et de déplacement de population au monde. En Tunisie, le Premier ministre Kamel Maddour est limogé moins d'un an après sa nomination. Le président Kais Saied, qui l'a immédiatement remplacé par sa ministre de l'équipement, Sara Zafarani. Kais Saied insatisfait ces dernières semaines de l'action de son gouvernement, la Tunisie confrontée à de graves difficultés économiques et financières. Après l'or olympique dans les bassins, c'était l'heure olympique de Kirsty Coventry qui a gravi l'Olympe et déjoué les pronostics pour prendre la tête du Comité international olympique. Première femme, première africaine à la tête de la plus prestigieuse institution sportive mondiale. L'ex-nageuse zimbabwéenne, 7 fois médaillée aux Jeux, qui a remporté l'élection haut la main à Costa Navarino, c'est en Grèce. Elle n'a laissé que des miettes à ses 6 adversaires sur la ligne de départ, Christophe Diremzio.
The 10th president of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Coventry.
Ce n'est pas une victoire, c'est un triomphe. 49 voix sur 97 votants, un score aussi étonnant que la carrière de Kirsty Coventry au CIO, une arrivée au sommet en seulement 12 ans et même pas un rêve de gosse.
Quand j'étais une petite fille de 9 ans, jamais je n'aurais pensé que je me tiendrais ici un jour pour rendre service à notre incroyable mouvement. Ce n'est pas seulement un immense honneur, mais c'est comme un rappel de mon engagement envers chacun d'entre vous que je dirigerai cette organisation avec tellement de fierté.
Profil jeune et moderne, présente dans de nombreuses commissions, ministre des Sports au Zimbabwe, la double championne olympique du 200 mètres d'eau a l'étoffe de la fonction et semble-t-il les faveurs de Thomas Barr. Sébastien Coe, grand perdant avec seulement 8 voix, reste beau joueur.
Je suis absolument ravi pour Kirsty. Nous avons une athlète à la tête de l'organisation et c'est une bonne chose. Nous en avons discuté d'ailleurs il y a seulement quelques semaines et nous étions d'accord sur le fait que ce serait l'option préférée. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je l'ai félicitée. Elle a un travail énorme devant elle, mais elle aura la confiance des athlètes.
Un nouveau statut qu'elle pourra apprivoiser jusqu'au 24 juin, date officielle de sa prise de fonction. Mais dès ce vendredi, Thomas Barr lance la transition en l'invitant à prendre un petit déjeuner. Christophe Diremzian, Costa Navarino, RFI.
Kirsty Coventry qui aura parmi ses premiers dossiers à traiter les Jeux Olympiques de la jeunesse qui se dérouleront l'an prochain à Dakar. En Angleterre, le trafic aérien très perturbé car l'aéroport d'Heathrow, le plus grand d'Europe, est temporairement fermé après un incendie qui a engendré une immense panne de courant. Gatwick, autre aéroport londonien, a accepté de recevoir les vols détournés. Quelques 1300 vols partent ou atterrissent quotidiennement à Heathrow, ce qui en fait le 5e aéroport le plus fréquenté au monde. En France, le forum Babel Music XP ouvre ses portes à Marseille, grand salon consacré aux industries musicales du monde entier. Plus de 1800 professionnels venus de 72 pays et parmi eux, dans les allées, Olivier Roger qui s'est frayé un chemin.
Les industries musicales dans le monde se portent bien si l'on en croit l'affluence dans les locaux de la friche La Belle de Mai à Marseille. Pendant 3 jours, on y débat de l'avenir des filières, des nouveaux modèles économiques, des questions de genre, de mobilité ou encore d'empreinte carbone. On y vient aussi faire des affaires. Olivier Ray, directeur de Babel XP Music.
C'est-à-dire qu'on a des opérateurs qui viennent à la fois pour vendre des concerts, d'autres qui viennent pour en acheter. Donc on a 500 ou 600 directeurs de festivals de du monde entier qui viennent pour faire leur marché. C'est littéralement un marché avec des acheteurs.
La formule Babel ne laisse pas indifférents les professionnels étrangers. Ainsi, le promoteur et manager quinois Christ Kisendo s'est inspiré du forum marseillais pour lancer la version congolaise Congo Music Expo.
Ce serait la première édition du 17 au 21 juin à Kinshasa.
L'occasion d'accélérer la professionnalisation de la musique congolaise.
Comme tout autre salon, donc il y aura des speed meetings, des ateliers, des showcases. Puis on accompagne 5 artistes qu'on aura à présenter aux professionnels qui viendront du monde entier pour voir un peu les différents talents qui existent ici au Congo.
Devenue une référence depuis sa nouvelle formule lancée il y a 3 ans, Babel XP Music est désormais un modèle à suivre. Olivier Roger, Marseille, RFI.
Et on termine sur les terrains de foot avec d'abord la 5e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. Et les Comores qui tombent de leur nuage, laissés la cante, balayés 3-0 par le Mali dans le groupe I. Un groupe dominé par de surprenants malgaches. 3-0 aussi pour le Gabon face aux Seychelles. Mauvaise opération en revanche pour le Bénin, les Guépards qui menaient 2-0 face au Zimbabwe mais qui ont fait match nul de partout. Et puis du foot en Europe. On joue les quarts de finale aller de la Ligue des Nations. Excellent coup pour l'Allemagne qui l'emporte 2-1 en Italie. Excellent coup pour la Croatie qui bat la France 2-0. De partout dans le choc entre l'Espagne et les Pays-Bas. Le Danemark qui surprend le Portugal 1-0. Place à notre super sub Juan Gomez qui entre en jeu pour rappel sur l'actu.
Merci Martin Guez. Bonne journée à vous. Restez avec nous les 8h10 en temps universel. Et dans 30 secondes, RFI vous donne la parole. À tout de suite.